Aujourd'hui, Jean-Paul Lamarque et son épouse, discrète toujours, mais qui participe activement à ce que vous faites, et vous êtes de grands voyageurs, et vous aimez aussi à faire partager vos découvertes. Nous rappelons qu'en 2017, vous nous avez présenté les jardins chinois et japonais. En 2018, l'Empire mongol. En 2021, Vasco de Gama. Et aujourd'hui, nous voici sur les pas des explorateurs de la Haute-Asie. Vous venez pour nous de Bayonne, vous en remercions, et nous allons vous écouter. À bientôt.
Madame la Présidente, excusez-moi pour ce petit retard technique. Nous commençons. Alors, les objectifs, d'abord, des expéditions, c'est très important avant de les voir se développer, mais il est nécessaire peut-être au début d'avoir un petit aperçu géographique. Alors, l'aperçu géographique, c'est surtout pour comprendre pourquoi, pendant tant d'années, sinon de siècles, on n'a pas exploré ces régions. L'Asie, c'est un espace immense, bien sûr. Et vous avez ici un rectangle, à peu près, notre écran, là, qui représente des milliers de kilomètres. Oui, regardez ici même cette partie, 4000 kilomètres de long, 4 fois la France. Nous allons nous y rendre ensemble. Vous savez que la tectonique des plaques a repoussé la plaque indienne vers celle de l'Asie en faisant surgir l'Himalaya, qui est ici en bas à gauche de cet agrandissement. La chaîne de l'Himalaya, 3000 km de long, elle culmine, vous le savez, à 8840 mètres d'altitude. C'est le point numéro 1 de cette carte et c'est le mont Everest, bien sûr. Notre pauvre Mont Blanc n'a que 4800 mètres, dont nous sommes 4000 mètres plus haut. Et puis, il y a la chaîne du Karakoram qui est à l'ouest, le Kunlun, le Tian Shan. Shan, c'est un mot chinois qui veut dire montagne. Toutes ces montagnes dépassent les 7000 mètres avec l'Hindou Kush qui ne figure pas parce qu'elle se trouverait à l'extérieur de cette carte à l'ouest. Et vous avez l'énorme massif du Pamir, donc vers où se dirigent les chaînes Kunlun Shan au nord, Himalaya au sud. Voilà. Et puis vous avez un espace marqué Taklamakan. Je m'y arrête un peu. Le Taklamakan, c'est un désert. Et nous allons en parler plus en détail tout à l'heure. Il est prolongé par ce qu'on appelle le désert de Gobi, qui n'est pas vraiment un désert, plutôt une steppe fréquentée par des éleveurs nomades. Et dans cet espace de Gobi, à l'ouest, il y a une étoile rouge, blanche bordée de rouge, que j'ai ajoutée, car c'est très curieux, il s'agit d'une dépression de moins 155 mètres. Oui, elle est plus basse que le niveau des océans, et en même temps, c'est le lieu du monde le plus éloigné de tout océan, 2250 km au moins dans toutes les directions pour pouvoir apercevoir l'océan. Alors vous comprendrez qu'avec un tel éloignement, un tel isolement, eh bien il y a là des climats extrêmes par leur amplitude. On aura là des froids terribles, des chaleurs terribles et une sécheresse terrible dans cette partie du Taklamakan et de notre cuvette du Turfan. Le plateau tibétain se trouve au beau milieu de tout cela, vous voyez la partie colorée en bleu, avec 4000 mètres d'altitude moyenne. Surtout, il faut savoir que c'est le château d'eau de l'Asie. Le château d'eau de l'Asie dont dépendent plus d'un milliard d'habitants, alimentés par les glaciers, les torrents, les montagnes qui l'entourent. En effet, partent de cet endroit les grands fleuves de l'Indus, du Gange, du Brahmapoutre, du Mékong, du Yangtze-Kiang, du Huanghe, ou fleuve jaune. Et nous le savons grâce à qui ? Eh bien, aux grands explorateurs dont nous allons parler. Les petits triangles numérotés, je vous ai donné celui du numéro 1, oui, c'est bien sûr le mont Everest, mais Everest est un nom donné par les étrangers. En réalité, nous devrions l'appeler Tchomolungma, Tchomolungma voulant dire la déesse mère en tibétain, ou le Sagarmatha, c'est-à-dire la déesse du ciel en népalais. Les étrangers sont arrivés, et en anglais, comme toujours, on a collé un nom sur quelque chose qui signifiait quelque chose avant. Et le nom nouveau, ben, c'est pour les étrangers. Numéro 2, le K2. Oui, K2, Karakoram, deux fois la lettre K. C'est le deuxième plus haut sommet de la planète. Le troisième, 3, c'est le Kanchenjunga, qui est divinisé, comme les précédents du reste. Et puis, vous avez un triangle rouge. Qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, il n'est pas plus haut que les autres, non. Mais c'est le mont Kailash qui est sacré pour les hindouistes, car c'est le trône du dieu Shiva. Il est sacré pour les bouddhistes et il est sacré pour les jaïns. Il faut 3 jours de marche pour en faire le tour, à condition d'avoir le courage de franchir un col à plus de 5600 mètres. Mais si vous avez le courage, la volonté de faire 108 fois le tour, vous avez le nirvana garanti. Voici une photo de l'Everest, photo que nous avons prise, je peux vous dire même quand, le 22 juillet 2014 à 7h11. Mais comment ? Eh bien depuis le hublot d'un avion qui passait à proximité. Car vous avez les longs courriers qui, parfois, pour aller par exemple au Ladakh, passent tout près de l'Everest. Et puis, voici le Kanchenjunga, le troisième sommet qu'on a vu tout à l'heure, ici, que nous avons photographié depuis notre résidence au Sikkim. Mais c'était il y a quelques années encore. Voilà. De manière plus générale, ce bloc diagramme montre un peu comment est composé notre ensemble. Des terrasses successives, commençant à l'est, couleur verte, moins de 200 mètres d'altitude, puis on passe à la couleur jaune, c'est entre 200 et 1500, parce qu'on a des paliers très hauts là, orangé, c'est-à-dire la steppe mongole, c'est entre 1500 et 4000 mètres, et au-delà, c'est le Tibet, couleur brune, 4000 et au-delà. Mais revenons au Taklamakan, le désert. Le désert le plus dangereux du monde, selon les mots du premier explorateur qui osa s'y aventurer, car Taklamakan signifie si vous y pénétrez, vous n'en sortirez pas. Bon, vous êtes prévenus. Température de moins 40 à plus 50 degrés. Désert absolu, avec surtout des tempêtes effroyables capables de renverser un camion ou même un train. Et il y a d'ailleurs des zones où doivent s'arrêter, se réfugier les convois si une tempête est annoncée. Karaburan veut dire ouragan noir. Ouragan noir, la terreur des caravanes qui le longent. De gigantesques tornades représentées par des gravures. Ici, vous avez une image qui représente, non, ce ne sont pas des arbres, ce sont des dessins de ces tornades qui montent jusqu'au ciel et vous voyez les silhouettes minuscules hein, des humains et des animaux. Là. Et là, nous avons le témoignage d'un archéologue du nom de Von Lecoq, dont nous parlerons tout à l'heure. Voici ce qu'il écrit. Tout à coup, le ciel noircit. Peu après, la tempête éclate avec une effroyable violence et s'abat sur la caravane. D'énormes masses de sable mêlées de cailloux sont happées par une force extraordinaire, tourbillonnent et se ruent sur l'homme et l'animal. L'obscurité s'accroît et d'étranges bruits d'objets qui s'entrechoquent se confondent avec le hurlement de la tempête. Tout cela ressemble à une vision d'enfer. Tout voyageur doit, malgré la chaleur, s'envelopper entièrement de feutre pour éviter d'être blessé par les pierres qui s'abattent autour de lui. Les hommes et les chevaux doivent se coucher par terre et subir la violence de l'ouragan qui fait rage pendant des heures. En 1905, une caravane de 60 cavaliers escortant un convoi de lingots d'argent périt dans un bourran d'une telle violence qu'il renversa ses chariots si lourdement chargés. On ne retrouva que quelques corps d'hommes et d'animaux momifiés, tandis que les autres avaient totalement disparu car la tempête de sable aime enterrer ses victimes. Dans l'esprit des Chinois, de tels événements étaient le fait des démons qui habitent le désert et y attirent les hommes jusqu'à ce qu'ils y périssent. Eh bien, nous avons vu naître un Karaburan. Regardez bien. Voyez à droite là? Ben oui, une toute petite tornade qui commence. Fausse alerte. Heureusement. Pourtant, on parle de 360 cités enfouies en 24 heures. Et des vestiges ont été retrouvés. Lorsque nous sommes passés là, quelqu'un a dit, tiens, il y a une usine là-bas. Une usine en plein désert. Passons. C'est pourtant à la lisière du Taklamakan que passait la route de la soie. Au nord, juste, sur la lisière nord, c'était le lien entre l'Extrême-Orient et l'Europe. Nous avons suivi cette lisière nord, la lisière nord qui est, paraît-il, la plus accueillante. Dépassement en troisième position et Inch'Allah. Mais fermez les vitres. La route fut fréquentée pendant 15 siècles jusqu'au début des liaisons maritimes. Souvenez-vous, Vasco de Gama, la dernière conférence. C'était l'axe principal pour aller de la Chine, Xi'an, qui s'appelait Shang'an autrefois, et pour aller jusqu'à l'Europe. La ligne verte marque l'itinéraire principal. On arrivait jusqu'à Venise, Constantinople, etc. Constantinople d'abord, bien sûr. Et puis le gros point rouge, alors. Le gros point rouge, c'était l'importante oasis de Kashgar, qui est toujours une importante oasis, point de passage obligé, où convergent aussi des voies secondaires, telles celles venues du nord, du Kyrgyzstan, où nous sommes allés, de Bishkek, dont, j'ai pas dit biftek, de Bishkek et Narin, en passant par le col de Torugar. Voilà. à côté du col de Torugar, nous avions vu les restes de cet ancien caravansérail. Kashgar, donc, l'oasis, visible donc ici du ciel, où se tient chaque dimanche, aujourd'hui encore, un marché indispensable aux nomades comme aux sédentaires. Par exemple, le marché aux bestiaux. Mais on peut aussi acheter de ces beaux ikats venus tout droit du Fergana en Ouzbékistan, presque voisin. C'est aussi le dernier salon où l'on cause. Bon, après avoir vu un petit peu ce panorama, passons aux objectifs. Je rappelle que Alexandre avait, au IVe siècle, Alexandre le Grand, tenté d'aller en Asie et il s'était arrêté à peu près à l'Indus, car son objectif n'était pas d'explorer, mais de régler une fois pour toutes le problème du danger perse. En sens inverse, il y a eu, venu de la Chine, venu de Xi'an, donc, des expéditions, deux surtout, qui méritent d'être signalées. D'abord, en 138 avant Jésus-Christ, celle de l'ambassadeur Zhang Qiang, qui était chargé par l'empereur chinois de se procurer ces mythiques chevaux célestes du Fergana, des chevaux qui étaient réputés être si rapides qu'ils semblaient voler. Mais le pauvre Zhang Qiang a été capturé par le peuple des Xiongnu et retenu prisonnier pendant 10 ans. Il était passé par Turfan, vous voyez le point bleu, oui, c'est la route nord de notre Taklamakan, et il a été donc fait prisonnier avant d'être libéré, je l'ai dit. Et au 7e siècle, donc après le Christ, le moine bouddhiste, alors là c'était un moine du nom de Xuanzang, lui est parti vers le sud, c'est l'itinéraire en vert, pour rapporter des sutras, c'est-à-dire les fameux textes sacrés du bouddhisme, qui, bien sûr, vous le savez, venaient de l'Inde, de la limite Inde-Népal aujourd'hui. Bon, voici le premier, voici Zhang Qiang. Il n'avait que 18 ans à l'époque, ce jeune cavalier, qui a rempli quand même en partie sa mission, et c'est lui qui, sans le savoir, a ouvert sans doute la route de la soie. Et dans le même musée provincial de Lanzhou, voici comment on se représentait ces fameux chevaux célestes. Quant au moine bouddhiste, le tracé de son immense voyage, à pied ou à cheval, le voici. Parti, voyez, de la Chine, tout à fait à droite sur la carte. Et regardez, il est passé au nord, d'abord, Kashgar, il est descendu, il a fait le tour du triangle indien pour aller, il a voulu passer par Kapilavastu parce que c'était le lieu présumé de la naissance du Bouddha historique, et puis il a fait le tour, il est revenu par Dunhuang, etc. Donc un voyage interminable, hein. On peut dire aussi qu'à la même époque, il y a eu des chrétiens nestoriens qui ont émigré car le concile d'Éphèse avait refusé de reconnaître cette branche du christianisme et ils étaient allés s'établir en Chine pour créer une première église nestorienne chrétienne au 7e siècle. Xuanzang fut lui aussi, le pauvre, retenu plusieurs années dans cette oasis, l'oasis de Dunhuang, voyez, par des disciples du bouddhisme qui voulaient écouter son enseignement. Donc ce n'était plus du tout le même objectif que celui du premier, qui était un objectif, on va dire, plutôt militaire. Voici les vestiges du lieu. Oui, il y avait là des bâtiments en terre cuite ou en terre crue qui a abrité des espaces. C'est le lieu où le lieu s'appelle aujourd'hui Gao Chan, hein, et c'est là que nous avons pris ces photos. Mais je voudrais signaler que ce lieu n'est pas si anodin que cela, car cela a été une capitale du peuple ouïghour. Oui, capitale du peuple ouïghour au IXe siècle. En Occident, au XIIIe siècle, inquiet des conquêtes de Gengis Khan, le pape a envoyé un franciscain du nom de Jean de Plancarpin à Karakorum. Attention, quand je dis Karakorum, ne confondez pas avec la montagne Karakoram qui est tout à fait à l'ouest. Il s'agit là d'une, je ne vais pas dire d'une ville, mais d'une sorte de campement en solide que l'empereur des nomades de la steppe avait fondé. Et le chemin pour y aller évitait tous les déserts par le nord. Et notre pauvre missionnaire a parcouru ainsi, en 2 années, 15 000 kilomètres pour remplir sa mission. À son tour, notre Saint-Louis, qui a envoyé un missionnaire, Guillaume de Rubruck, pour rencontrer des musulmans, des bouddhistes, des nestoriens. Et puis n'oublions pas que Marco Polo était aussi allé là-bas, mais pas en tant qu'explorateur, il avait une mission au service de l'empereur mongol, etc. Bon. Les objectifs, donc, des véritables explorateurs, voici dans l'ordre chronologique à peu près à quelles préoccupations ils répondaient. On pourrait dire avant, quand même, qu'un premier tibétologue, qui était un Hongrois, du nom de Xoma de Koros, croyait retrouver à l'est, dans la région d'où étaient venus les Huns, souvenez-vous, ces envahisseurs Huns du 5e siècle, ils croyaient que c'était peut-être l'origine du peuple, hein, des Magyars, des Huns, et il était parti en 1822 pour Beyrouth, puis Bagdad, puis il va rester une année en Iran parce qu'il voulait apprendre le persan, alors qu'il parlait déjà anglais, français, allemand, arabe et turc. Vous voyez, là on partait avec quand même un certain bagage, pas comme aujourd'hui. Déguisé en bédouin, il a traversé l'Afghanistan, le Cachemire, puis il est resté 16 mois dans un monastère au Ladakh, à 4000 mètres d'altitude, pour étudier le tibétain, avant de rédiger un dictionnaire et une grammaire de la langue tibétaine, après 15 années de pérégrination. Avant de parler des géographes, il ne faudrait pas oublier deux moines français, Évariste Huc, originaire de la petite ville de Caulus, en Rouergue. Vous voyez, c'est pas très loin. Et son compagnon, Joseph Gabet. Comment sont-ils partis se promener en Asie centrale? D'où? Eh bien, simplement parce qu'ils étaient missionnaires dans un petit centre chrétien en Mongolie. Il y avait eu une fondation d'un petit monastère, et parti de là, on les a envoyés pour évangéliser les nomades. Bon. Alors, déguisé en lama chinois, voici le père Huc, déguisé en lama, son compagnon sont parvenus à Lhasa, la capitale bouddhiste, hein, mais il a fallu 18 mois de trajet avec 2 chevaux, un âne, 4 chameaux, et il y avait 2 chameliers pour les aider. Et ensuite, ils se sont rendus. Alors voilà l'itinéraire. Hein, ensuite, ils se sont. Donc vous avez le point de départ en haut à droite. Ils sont allés à Lhasa, en bas à gauche, et ils sont descendus ensuite, voilà, pour arriver à Canton, au bord de la mer, et pour pouvoir reprendre le bateau et revenir par je ne sais quel moyen, mais 10 000 kilomètres. Alors, ils ont découvert des monastères. Hucques et Gabet ont découvert les monastères fortifiés qui leur rappelaient un peu ceux du Moyen-Âge. Ici, nous sommes tout près de Lhasa. Et puis, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de si grande différence entre la pensée chrétienne et la pensée bouddhiste. En effet, parmi les 8 préceptes du noble octuple sentier du bouddhisme, il est dit qu'il faut bien penser, bien parler et bien agir. Ah, mais il ne faut pas pécher par pensée, par parole et par action. Voyez le rapprochement. Et donc, l'usage du chapelet aussi ne les a pas tellement étonnés. Le chapelet tibétain, sauf que le chapelet tibétain est très commode pour mesurer les distances. En effet, on compte un grain tous les 10 pas. Et comme le chapelet a 108 grains, eh bien, ça permet, par un petit calcul, de savoir la distance parcourue. En revanche, ce qui les a étonnés, alors, oui, c'était les moulins à prière. Alors, ils se sont dit peut-être, ah, ça, c'est pas bête, on devrait inaugurer ça chez nous aussi. Bon, passons. L'école où flottent les lungtas, ces oriflammes aux couleurs des 5 Orients ou des 5 Dhyani Bouddhas, alors ça, ils ne connaissaient pas, mais ils ont découvert de fabuleux paysages. Ici, il s'agit du fleuve Brahmapoutre. Et nous avons pris cette photo à un moment où il n'était pas très haut, en fortes eaux. Brahmapoutre, ça veut dire le fils de Brahma, le dieu Brahma hindouiste. Puis ils ont vu le Potala de Lhasa. Alors là, oui, ils ont jugé que c'était majestueux et imposant. Nous sommes à 3700 mètres d'altitude. Et ils ont écrit un récit, ou plus exactement, Évariste Hucques a écrit un récit dont le titre est dans la bibliographie que je mets à la fin. Et ce récit a connu un immense succès. Un récit plein de verve et de bonhomie, riche en remarques et anecdotes de toutes sortes. Par exemple, comment fabriquer des cordes en poils de chameau, comment dompter un cheval, comment faire provision d'argol. Argol, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont des bouses séchées qui servent de combustible. Et puis, il parle des poux. Ah, il ne connaissait pas les punaises de lit, hein. Mais les poux, la plus grande misère que nous ayons eu à endurer, dit Hucques. Pire que le froid, que la faim, que la soif, que les brigands même. Et lors de séances d'épouillage, les lamas ne tuent pas les bestioles. Pas question, parce que vous savez qu'il y a la réincarnation possible dans un animal. On ne va pas tuer son grand-père, hein, même si c'est un poux, hein, et qu'il l'a mérité. Passons. Alors, on va les lancer au loin. Et puis, il y avait des séances d'épouillage. On récolte les poux qui sont vecteurs de typhus afin de fabriquer une sorte de vaccin. Ils savaient déjà, voyez, fabriquer quelque chose comme les vaccins, j'ai dit bien, avant Pasteur. Désormais, les objectifs deviennent scientifiques, cartographiés, voyez un petit peu comment. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, hein, il n'y avait pas, non, et on se débrouillait comme ça. La carte, la boussole, bien. Identifier les grandes chaînes de montagnes, leur position, l'altitude, les sources et la direction des cours d'eau, des grands fleuves, je l'ai dit. Alors, pour déterminer l'altitude, comment pouvait-on faire? On n'avait pas d'appareil perfectionné, mais on pouvait, vous avez peut-être une idée, faire bouillir l'eau et regarder à quelle température elle bouillait. Car ça, c'est connu, c'était connu à l'époque, bien sûr. Le baromètre, c'est le baromètre mercure, la hauteur de la colonne de mercure, mais la température d'ébullition de l'eau. Lorsque je suis allé à 6500 mètres dans les Andes, je m'étais informé auprès de l'Institut de l'altitude à La Paz, et on m'avait dit, à 6500 mètres, l'eau bout à 78 degrés et la pression atmosphérique est de 330 millimètres. Et ensuite, à toute une échelle de possibilités. Mais pour la latitude et la longitude, c'est une autre affaire. La latitude, on peut toujours se débrouiller, par le soleil, l'heure exacte, selon la saison. Vous voyez, la hauteur du soleil sur l'horizon à midi solaire, au zénith. Mais ça, ça demande quand même d'être déjà un peu formé. Mais la longitude, vous savez très bien que la longitude, c'est le décalage horaire. Eh oui, si on a une heure de décalage, ça fait tant de degrés, hein, pour les méridiens. Mais il faut avoir une horloge qui fonctionne depuis le début et qui ne change pas, pour comparer avec l'heure du lieu où le soleil. Et là, ce n'était pas possible à l'époque. Donc très difficile, bien sûr. Comment franchir les chaînes de montagne? Vous aviez des cols à plus de 5000 mètres d'altitude, impraticables en hiver. Quand même, malgré tout, peu après, le début du siècle, du 19e siècle, eh bien, on a créé des sociétés de géographie en Inde. Pourquoi en Inde? Parce qu'il y avait les Anglais en Inde, dont ce sont les Anglais, en 1818. Puis les Français, puis les Russes ont créé des sociétés de géographie. Car on en arrive au problème géopolitique. Trois puissances en scène autour de l'espace convoité par les Britanniques et les Russes. C'est l'époque qu'on appelle le grand jeu, Great Game. Il ne s'agissait pas d'un jeu, il s'agissait d'une étude secrète pour connaître les territoires afin de pouvoir se les approprier. Sous prétexte d'aller jouer au golf ou de chasser le lion, on cartographie, on espionne l'adversaire, je dis bien entre Britanniques et Russes. Au nord du fleuve Amoudaria, qu'on appelait l'Oxus, tout étranger est considéré par les Russes comme un espion anglais, et vice-versa. Sans oublier les agents doubles et les faux pèlerins. Parallèlement, des commissions russo-britanniques se sont réunies pour essayer d'établir les frontières entre la Perse, l'Afghanistan, la Russie, l'Inde, la Chine. Il n'y avait rien encore d'établi à ce moment-là. Car les Russes veulent avoir accès à ce qu'ils appellent les mers chaudes. Les mers chaudes pour des raisons stratégiques et commerciales. Par exemple, vers l'ouest, c'est la Méditerranée. Vous voyez la flèche rouge en haut, la Méditerranée. Et vers l'est, c'est la mer du Japon, la mer de Chine, l'océan Pacifique. Les Russes fondent Vladivostok. Alexandre II, c'est lui qui s'en est occupé. Et puis il y a eu Port Arthur. À l'ouest, ils possèdent déjà Sébastopol et Odessa. Mais ils vont s'emparer de Tashkent, puis de Samarcande, et ils vont construire même un chemin de fer. Et les premiers protectorats russes sont Boukhara et Khiva, hein, jusqu'en 1930, même un peu avant, en Ouzbékistan. Alors les Anglais s'inquiètent. À Calcutta, les Anglais disent il faut cartographier tout le secteur Karakorum, là, l'ouest, l'Himalaya. Alors on envoie des savants, des pundits ou pandites. Je rappelle, pandite veut dire un savant, un lettré, le pandit Nehru, souvenez-vous. Hein, des pandites, des experts. C'est un mot d'origine sanscrite. Hein. Ces pandites sont déguisés en pèlerins ou en marchands. Et on va les équiper d'un matériel miniaturisé. Par exemple, un baromètre à mercure, c'est long, ça fait 80 cm. Dans quoi est-ce qu'on peut le cacher? Dans une canne creuse. Ah oui, tout simplement. Alors, ils avaient des cannes, certains. Ils n'allaient pas donner des coups de canne à quelqu'un, on aurait cassé le baromètre. Et le plus connu de ces pèlerins, on va dire, s'appelait Mohamed I. Hamid. En 1863, il quitte le Cachemire. Il traverse le Ladakh. Le Ladakh, c'est la ville de Leh. Et il va franchir la chaîne du Karakoram. Alors, c'est la première flèche verte en bas, vous voyez, et j'ai marqué Leh au bout de la flèche. Oui. Ensuite, Il va atteindre Yarkand, deuxième flèche. Puis au bout de dix mois, il arrive à Khotan, troisième flèche. Et c'est ici une ancienne capitale enfouie sous les sables, au sud du désert du Taklamakan. Eh bien, cette expédition a été répétée en 1870 par un alpiniste et topographe, William Johnson, premier Européen atteignant le Taklamakan depuis l'Inde. Et cet homme a confirmé la présence d'anciennes cités englouties. Bien sûr, derrière tout cela, il y a la reine d'Angleterre, la reine Victoria. Elle est représentée en Inde par un vice-roi qui a établi sa capitale d'été à Shimla, à 2200 mètres d'altitude. Shimla, une petite cité tranquille, perchée sur un éperon rocheux où nous avons séjourné. Voici la ville, une vue panoramique de Shimla dans la montagne. C'était le quartier général, vous voyez, de l'administration britannique, bâtiment construit en 1888 à Shimla, dans le nord de l'Inde. Puis les Anglais ont construit, alors là, une commémoration militaire, on sent toute l'influence britannique, et les Anglais ont construit cette route vertigineuse, franchissant plusieurs cols à plus de 5000 mètres jusqu'à la frontière du Tibet. On peut imaginer le nombre d'ouvriers indiens morts au cours des travaux. Il n'y avait pas de machine. Après les géographes, un grand nom de la botanique, malheureusement décédé très jeune, Victor Jacquemont, géologue et botaniste français fort érudit, envoyé en mission en Inde par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il explore dès 1830 l'ouest de l'Himalaya, le Cachemire, le Ladakh. Imaginez ce jeune homme qui va diriger une caravane de 45 porteurs. Et il va réunir près de 6000 pièces d'herbier, 1 000 000 d'échantillons de roches et des fossiles marins, dont une ammonite de 150 millions d'années qui portera son nom, Ammonites Jacquemundi, pour les spécialistes. Problème, être géologue et commencer à donner des coups de marteau sur les rochers, ça ne fait pas plaisir toujours aux locaux qui craignent qu'on éveille les démons de la terre, dont il fallait parfois le faire très discrètement. Alors c'est le moment de voir 4 destins vraiment extraordinaires parmi bien d'autres, et dans 4 domaines différents. Il était difficile de choisir, alors je me suis dit 4 domaines différents, puis il y aura un Russe, un Français, un Suédois et un Hongrois. Comme ça, pas de problème. Chronologiquement, un officier russe, Nikolai Przybylski. Il a fait 4 expéditions en Asie centrale, bien sûr avec le soutien de la Société impériale de géographie. Mais il s'est heurté souvent à l'hostilité des Chinois qui essayaient de le faire s'égarer. En Mongolie, alors regardez, les lignes représentent ces différentes expéditions. Hein. Il a parcouru tout ça, notre Przybylski. Des conditions très dures. Par exemple, au cours de la 3e expédition, 55 chameaux ont péri, ainsi que 24 chevaux. À noter que Przybylski ne s'est pas attaqué aux montagnes, ni à l'immensité du plateau tibétain. Vous voyez, le Tibet au milieu, il n'y est pas allé, ou à peine il a traversé un peu de Doulmang à Lhasa. Ça sera les autres. Son escorte emploie des soldats mongols, munis de fusils et d'arcs. Et je rappelle que les Mongols étaient d'une extrême habileté à l'arc. On pourrait presque dire unique par leur habileté. Mais ils n'ont pas pu utiliser de guide chinois, évidemment, ni tibétain. Mais ils ont eu un guide kirghiz, en voici un, Joloman Shinbayev. Alors cette image, nous l'avons trouvée dans le musée de Karakol, à l'époque de soviétique, au Kyrgyzstan, bien sûr, nous sommes en Kyrgyzstan. La ville de Karakol avait changé de nom et on lui avait donné le nom de Przewalski, vous voyez, le nom de l'explorateur, pour montrer l'importance qu'il a eue, cet homme, hein, pour les Russes. Qui ne connaît le célèbre cheval dit de Przewalski? C'est bien notre officier russe qui a découvert cette espèce quasi disparue, réintroduite en Mongolie en 1992. Il est petit, trapu, avec une belle crinière dressée, mais il est très farouche et indomptable. On dit, des archéologues, des spécialistes disent que les chevaux peints à Lascaux seraient de cette même race, les chevaux de Lascaux. Le musée de Karakol, en l'honneur de Przewalski notamment, et à côté de ce musée, le tombeau. Alors dans le musée, voici un théodolite, un appareil pour mesurer les angles verticaux horizontaux appartenant à M. Przewalski. Et à côté, le tombeau et le mémorial de celui qui est considéré comme le plus grand des explorateurs russes. 1889. L'exposition universelle à Paris, dont la star est Gustave Eiffel. Oui, mais pendant ce temps, à la Société de géographie, Gabriel-Pierre Bonvalot expose à des amis son projet. Son projet, c'est rallier le Tonkin, fait partie de l'Indochine française, depuis la Russie, en traversant tout le désert de Gobi, dont du nord-est vers le sud, et tout le Tibet inexploré, je l'avais dit. Et il faut passer par Lhasa, et ensuite on descend la vallée du Mékong. Voilà. Alors, le photographe, ce sera le jeune Henri d'Orléans, dont le père, duc de Chartres, va assurer le financement. Gabriel et Henri sont déjà des explorateurs expérimentés. Mais ici, les conditions seront plus que rudes. Par exemple, pour le photographe, pensez au matériel qu'il fallait transporter. C'était les grosses caisses, là, vous savez, la grosse boîte, on mettait la tête sous le tissu noir, et puis développer les plaques et tout, en verre, fragile, lourd. Voilà. Alors, manipuler tout ça par moins 20 ou moins 30 degrés, en plus. Que font-ils? Ils partent de Paris. Oui, ils traversent la Russie en train ou par voie fluviale. Ils parviennent près du lac Balkhach. Oui, le lac Balkhach est la dernière ville russe. Ensuite, on prépare la caravane. Il faut des animaux, des guides, des provisions, du fourrage. Et là, commence la vraie expédition en terrain inconnu. C'est la partie marquée en rouge. La partie en rouge, elle fait quand même 6000 kilomètres. La voici en détail, en rouge. Vous voyez, elle traverse toute la carte avec Lhasa au milieu. Bon. Oui, 6000 kilomètres en 13 mois. Eh bien, un itinéraire qui n'avait jamais été emprunté ni par les Anglais ni par les Russes. Il faudra traverser la partie orientale de la chaîne du Tian Shan. Donc, vous voyez, au milieu à peu près de cette carte. Et il faudra rencontrer des peuples inconnus. Et par exemple ici, les Kirghizes, qu'on reconnaît à leur chapeau blanc très haut, vous voyez. Ici, ce sont des riches, ils ont une belle yourte. Mais plus loin, ils vont en rencontrer d'autres, des pauvres, qui vont essayer même de les attaquer ou du moins de voler leurs chevaux. C'est la dure loi de la steppe. Les obstacles, les montagnes et les cours d'eau sont nombreux, car les cours d'eau sont orientés est-ouest. Il faut donc toujours les traverser. Il faut faire des réserves de provisions. Il faut avoir du pain à la graisse salée, de la farine, de l'orge pour les chevaux, des raisins secs et quelques moutons bien gras sur pattes. Ici, regardez, construction de radeaux et pour passer une rivière et pour passer les chameaux. C'est difficile car les chameaux ne veulent pas monter sur les radeaux. Alors, un par un, alors que les chevaux et les moutons, on peut les faire passer plus ou moins à la nage. On dresse le camp. On dresse le camp près de la rivière Tarim et Henri, le photographe, va partir vers l'est quelques jours avec une petite escorte pour remonter le cours d'eau et rechercher un lac qui avait été signalé par Przybylski, le lac du Lop Nord. Or, le lac a disparu dans les sables, il n'y a plus de lac. On rencontre bien quelques chasseurs et pêcheurs qui disent « Ah non, il n'y a pas de village, il n'y a personne par là. » Non, non, ne cherchez pas, il n'y a rien à voir. Henri finit par atteindre le village. Il y avait un village. Oui, mais les hommes ne voulaient pas le révéler car ils craignaient qu'on vienne s'emparer de quoi ? De leurs femmes. Eh oui, voilà. C'était peut-être la coutume dans ces lieux. Henri est de retour au camp après 8 jours d'absence. Il fait déjà très froid la nuit, on est en novembre. Et au sud, il y a la chaîne d'Atlin Tag, les montagnes d'or qui barrent l'horizon. La rivière est gelée. Le guide leur dit, de l'autre côté commence le pays des vents de glace. Tous savent que les chevaux sont condamnés à mourir les premiers. On va traverser pendant 5 jours sans trouver une goutte d'eau, mais heureusement, on a emporté des blocs de glace dans des sacs. Et l'image à droite est une gravure faite à l'époque montrant la montée vers ce col, difficile d'accès, et derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y aura. Voici un camp dans la montagne. On allume des feux, il n'y a pas de bois, on fait brûler de l'argol, je vous l'ai dit. La température va descendre jusqu'à moins 30 degrés la nuit, les étangs sont gelés. Et un matin, plus de chevaux, les chevaux ont disparu. Où sont les chevaux ? 30 heures plus tard, un homme qui était parti à leur recherche a marché toute la nuit pour trouver les chevaux et les ramener. Il n'était pas question de s'arrêter, il aurait gelé sur place. Il a marché 30 heures pour ramener les chevaux. Progression sur la glace. Tout le monde souffre de l'altitude et du froid, 5300 mètres en hiver. Un premier serviteur meurt de froid et d'épuisement, il faut briser la glace à la hache pour l'enterrer. Enfin, dans la vallée, on retrouve une piste, avant de rencontrer une caravane de Tibétains. La première traversée du désert de Lop est réussie, au prix de la mort d'une douzaine de chevaux et de chameaux, et de 2 chameliers aussi. Regardez comment étaient vêtus ces chameliers, ces hommes qui portaient une sorte de tunique, la tchouba, serrée par une ceinture, ça fait une vaste poche sur le ventre, dans laquelle on met les choses les plus importantes, et la plus importante, c'est le moulin à prière. Eh oui. Et ensuite, on peut mettre le bol en bois, le bol, la tabatière, et puis de la viande. Mais n'oubliez pas, il gèle, et il gèle dur, donc la viande est gelée, pas de problème. Les larges manches, pas de gants, les pouces sont dressés pour saluer. C'est l'offrande de la lumière. Et pour saluer, on lève les pouces et on tire la langue. Vous voyez, Tintin au Tibet, c'était pas faux. Tirer la langue pour saluer. Mais vous allez voir que ça va servir à quelqu'un d'autre, ces détails tout à l'heure. Voici un yakier dont est son inséparable manécorlo, le moulin à prière. La suite de l'interminable itinéraire vers le sud sera heureusement moins périlleuse, mais la caravane sera refoulée en vue de Lhasa. Vous voyez, ils ne peuvent pas arriver à Lhasa, ça leur est interdit. Et ils seront obligés de mettre le cap à l'est, passer par Tsamdo, Batang, et descendre vers le Mekong jusqu'à Hanoï. Hanoï, eh oui, le palais du gouverneur d'Indochine, eh oui, le palais français, qui venait tout juste d'être construit car la conquête du Tonkin avait été achevée en 1882. Troisième, le Suédois Sven Hedin, géographe renommé en Suède et en Allemagne. Un homme polyglotte, il parlait 7 langues différentes, oui. Un homme robuste, persévérant, qui va réussir, malgré les mises en garde, la première traversée hivernale du Pamir entre Tashkent et Kashgar. Avec son escorte britannique, il va franchir le très haut et sinistre col Wakjir. Il fait moins 37 et même le mercure gèle. Il doit arriver à Kashgar, les yeux bandés, souffrant d'ophtalmie des neiges. Nous sommes en 1894, il a failli mourir. Il repart l'année suivante. Son but, cartographier le désert du Taklamakan. Je vous l'avais dit que ce désert, c'était quelque chose. Une expédition qui faillit être la dernière, nous allons voir pourquoi. D'abord, il est parti de la base britannique de Srinagar pour franchir la montagne, le massif du Karakoram, pour atteindre Kashgar. Nous connaissons déjà un petit peu cela. Première épreuve, passage des cols à 5000 mètres, affronter le froid. Mais le pire est pour bientôt. À Kashgar, le jour de son 30e anniversaire, Hedin commence la longue traversée du désert, oui, avec quelques hommes et 8 chameaux chargés du matériel et des vivres pour un mois. Et d'après la carte, on voit qu'on va couper quelques petits cours d'eau, vous voyez en bas, les petits filets bleus là, oui, donc pas de problème, n'est-ce pas? Oui. Au bout de 15 jours, Hedin découvre avec effroi qu'il ne leur reste de l'eau potable que pour 2 jours, car les hommes n'ont pas obéi à l'ordre de remplir les outres au précédent point d'eau. Et le guide affirme que ça sera suffisant. Erreur tragique. Écoutez plutôt. Hedin décida de continuer en réduisant les rations de tous. Il fallut abandonner 2 chameaux malades et tous les bagages superflus. Tout à coup, les nuages s'amoncelèrent, soulevant tous les espoirs, puis se dispersèrent. Une tempête de sable s'abattit sur la caravane épuisée. On découvrit alors que le guide avait volé le peu d'eau qui restait. 2 jours plus tard, Hedin essaie de se désaltérer en buvant l'alcool à brûler du réchaud. Il devint quasi incapable de bouger et dut ramper pour rejoindre ses compagnons. On tua un mouton pour en boire le sang qui coagulait. 2 hommes essayèrent de boire l'urine d'un chameau et tombèrent gravement malades. Le 5e jour, abandonnant plusieurs hommes mourants, Hedin et Kazim aperçurent des traces de pas. Ouf, des traces de pas. Avant de comprendre que c'était les leurs, ils avaient tourné en rond. Le lendemain, ils virent une ligne sombre à l'horizon. La forêt, hurla Hedin. La Kotandaria, de l'eau. Kotandaria, le premier ruisseau vert, voyez. Le soir, seul, Hedin abandonna son compagnon évanoui et rampa à travers les arbres. Il atteignit la rivière, qui était à sec. Se forçant à ramper le long du lit de la rivière, il atteignit enfin un petit étang d'eau fraîche, bu abondamment, puis remplit ses bottes de cuir pour rapporter de l'eau à son compagnon agonisant, qui fut sauvé. Des bergers avaient entre-temps découvert le drame et sauvé d'autres hommes, sauf deux qui ne furent jamais retrouvés. Tout le matériel avait été perdu, ainsi que les animaux, sauf un chameau. Quelques mois plus tard, Edin réitère et il atteint en 3 semaines l'ancienne capitale déjà identifiée de Khotan, où il achète des objets, des manuscrits, des monnaies provenant de la cité antique, parmi lesquels des bouddhas en stuc, témoignage de cet art du Gandhara né des influences grecques, perses et indiennes. Puis l'expédition va traverser le désert vers le Tian Shan au nord, avec un courage insensé et admirable. Les voici, ces monts célestes, Tian Shan, montagne du ciel, qui culminent à plus de 7000 mètres, tels que nous les avons vus. Le minutieux travail de cartographie va reprendre le long de la rivière Tarim. Mais après 80 jours de navigation, la rivière gèle, on est en décembre, il reste 220 km à parcourir à pied. Et on atteindra finalement le site de Lulan dans le Lop-Nor, ancienne étape de la vieille route de la soie à la frontière ouest de la Chine. Ville déjà enfouie sous le sable lorsque Marco Polo y passa au XIIIe siècle. On y trouvera des manuscrits du IIIe siècle. Cette carte montre aussi quelques-uns des sites archéologiques qu'on a localisés pour les archéologues qui vont suivre. Toutes les petites étoiles rouges sont des sites archéologiques intéressants. Edin a réalisé une cartographie complète du Tibet et c'est lui qui a découvert les sources du fleuve Brahmapoutre. Déguisé en pèlerin bouddhiste, il n'arrivera pas à Lhasa, mais à son retour, il publiera 50 volumes traduits en une trentaine de langues après 40 années de voyage souvent dangereux. Et il a été récompensé par les plus hautes distinctions en Suède comme en Angleterre. Je précise qu'il était aussi aquarelliste de talent. C'est lui qui a peint « Regardez cette montagne au fond, la montagne sacrée, le mont Kailash avec le lac qui est devant le lac Mansarovar » peint par Sven Edin. Et enfin, voici notre quatrième héros, le Hongrois Marc Aurel Stein, géant de l'archéologie de l'Asie centrale, qui était, lui, fasciné par l'épopée d'Alexandre le Grand. Et il va d'ailleurs bénéficier aussi, il faut le dire, des travaux cartographiques de notre expédition précédente, antérieure, en confirmant que tout était très juste et très précis. Et Aurel Stein va consacrer lui aussi sa vie à la recherche de vestiges, de manuscrits, en parcourant en 16 années 40 000 kilomètres dans ce qu'on appelle encore à l'époque le Turkestan chinois. Le voici en 1912, l'année du Titanic. Eh bien, lui, il était là avec ses collaborateurs. Oui. Préparation de portage, interminables palabres pour savoir ce que chacun gagnera en fonction du poids qu'il porte. Imaginez tout cela. Puis il faut préparer l'itinéraire, voyez, itinéraire désormais classique, mais il faut passer l'école. Puis il faut franchir le désert au-delà de Khotan qui a déjà été fouillé. Il faut affronter le Karaburan, hein, les tornades noires. Puis progresser sur la rivière Nia qui est gelée. Et puis voici du nouveau. Stein a entendu parler d'une importante cité ancienne qui est décrite par un certain Islam Ahum, un homme qui affirme y avoir découvert un grand nombre de manuscrits en langue inconnue. Et en voici un exemple. Alors ça, les Russes, les Anglais sont friands de tout ça, mais personne ne parvient à les décrypter. Stein finit par découvrir que cette cité n'existe pas et que les précieux documents déjà exhibés au British Museum sont des faux. Des faux habilement fabriqués en série par Islam Ahoum et quelques complices. Le plus brillant des spécialistes en langue indo-aryenne, président de la Société asiatique du Bengale, s'est lui-même fait berner. Et il faut éviter d'ébruiter l'affaire. Donc n'en parlez pas. Ça pourrait vexer. Toujours vers l'est, à Mogao, près de 500 grottes, contenant l'ensemble le plus riche du monde en peintures, manuscrits et sculptures bouddhiques, les donations de pèlerins, bien sûr, qui, avant de partir ou à leur retour, faisaient des cadeaux pour remercier. 45 000 fresques ont été peintes dans ces grottes, 2 000 statues de stuc colorées, 50 000 manuscrits, écrits bien sûr en chinois, traitant de religion, d'histoire, de science, de littérature, tout cela caché ici au XIe siècle. On ne sait pas très bien par qui ni pourquoi. Des sculptures polychromes, regardez, tout ça dans les grottes, ici, magnifique. Vous avez Shakyamuni, le Bouddha historique, en nirvana, c'est l'image de gauche. Et puis, vous avez à droite une image d'un de ces gardiens célestes. Mais aussi, dans d'autres grottes, celle de la nécropole d'Astana, des bannières de soie. Et avant le retour à Kashgar, avec 45 chameaux chargés de trésors, dont beaucoup de vestiges liés à la religion manichéenne. La dernière expédition de Stein fut particulièrement éprouvante alors qu'il cartographiait un glacier des monts Kunlun par moins 37 degrés. Il souffrit de gelures aux pieds et sera amputé de quelques orteils. Lui aussi sera récompensé à Budapest, à Londres, à Berlin, et les manuscrits donneront du travail à de nombreux spécialistes internationaux. Le site de Yulin, dans ce beau décor de montagne, sera exploré par l'archéologue allemand Albert von Lecoq, qui a tout fait pour arriver avant Stein. C'était la course, car la concurrence est acharnée. Même des Japonais étaient passés par là, avant l'arrivée d'une équipe russe. On en viendra presque à se battre pour pénétrer dans les grottes et emporter des vestiges. Voici le coq et son équipe. Le chef, à droite, c'est Grunwedel. Lui ne veut rien dégrader, ne veut pas abîmer les grottes, alors que le coq veut découper et emporter au plus vite. Les peintures murales de Yulin, regardez, de toute beauté. Vous avez ainsi 40 grottes. Voici, ici, c'est dans la numéro 25. Bon, 14 siècles de peinture entre la dynastie Tang et la dynastie Qing, chinoise, bien sûr. Regardez un détail de ces peintures splendides. La grotte numéro 3, divinité du bouddhisme tibétain. Oui, tous étaient admiratifs devant le bleu de lapis lazuli, cette pierre venue de l'Afghanistan qui servait à faire les couleurs bleues pour les peintures. Près de Turfan, les grottes de Bezeklik, ce qui veut dire un ouïghour, où il y a des peintures. Photos que nous avons prises depuis l'entrée d'une grotte. Heureusement, le sable avait envahi tout l'intérieur des cavités en protégeant les fresques jusqu'à l'arrivée des archéologues. Voici des scènes du très riche éventail de personnages. Photos prises autrefois, un peu anciennes, photos d'époque, monochrome. Alors le coq, on l'a dit, a fait découper des grands panneaux, il a envoyé tout ça à Berlin, il a fallu 20 mois de transport pour que ça arrive à Berlin, et tout sera détruit par les bombes en 1945. Voilà. Mais heureusement, quelques 200 caisses de vestiges seront sauvées. Quant aux grottes, utilisées comme prison, elles seront saccagées quelques années plus tard par des prisonniers russes, puis par les musulmans, destructeurs des représentations humaines. Ne restent que les photos de cet inestimable trésor artistique et documentaire. Le coq n'était pas gaulois, mais allemand. En revanche, voici Paul Pelliot, notre archéologue français, qui allait honorer l'archéologie française avec un atout considérable, très important par rapport à ses concurrents, car lui, outre la pratique de 12 langues étrangères, il maîtrisait à la perfection le chinois qu'il enseignait à l'école française d'Extrême-Orient d'Hanoï, avec une mémoire prodigieuse, et il était aussi redoutable au jeu de poker, car on jouait pour de l'argent, et quand il gagnait souvent, ça lui permettait de financer un peu mieux son expédition. Il n'était pas le seul d'ailleurs, parce que Przebalski avait fait pareil. Bon, eh bien, comme il connaissait très bien le chinois, il pouvait lire les textes et les choisir, tandis que ses concurrents y prenaient, ils ne savaient pas si c'était important ou non. Alors, Pelliot, lui, sélectionnait très intelligemment. La découverte du site d'Angkor au Cambodge a tout retardé parce que, évidemment, on ne pouvait pas financer en même temps deux expéditions. En 1906, il a fallu attendre un peu pour que Pelliot puisse aller à Dun Huang avec deux collaborateurs. À Dun Huang, il gagne la confiance du moine chinois, gardien du site, qui avait été rencontré par Stein auparavant, et il peut accéder à la cachette où sont entassés encore plus de 20 000 manuscrits. Et pendant 4 mois, Pelliot va travailler là, souvent à la lueur d'une bougie, pour choisir, acheter les rouleaux les plus précieux, parce qu'il sait immédiatement décrypter les textes, dont le plus important, le sutra du diamant imprimé en xylographie, c'est-à-dire avec des blocs de bois, imprimerie du 9e siècle. Vous voyez, on n'est pas à l'époque de l'imprimerie d'Occident, 9e. Et de retour à Paris, malgré une campagne de calomnie de la part d'orientalistes plus âgés et jaloux de son succès, il va vite devenir le plus éminent des sinologues français, oui, malgré toutes ces difficultés, reconnu comme tel par Stein lui-même. Et n'oublions pas d'autres comme les Américains Langdon Barner, Horace Jane, qui faillit être amputé de 2 pieds parce qu'il avait fait l'erreur de passer à dos de chameau un col Karakoram, 5700 mètres, immobile sur le chameau avec les pieds qui gèlent, et quand il a voulu descendre du chameau, il s'est écroulé, il n'avait plus de pieds. Vous voyez le problème. Et puis les archéologues japonais, qui étaient de faux archéologues, mais de vrais espions. De nouvelles aventures, les reconnaissez-vous? Très bien, j'ai entendu. Honneur aux dames. D'abord, Alexandra David Neil. Alexandra, au prénom prometteur. Elle était fille d'un directeur de journal, qui était, elle a été aussi journaliste, ethnologue, etc., disciple d'un géographe connu, Élisée Reclus. Elle était féministe. Elle défend le droit moral pour les femmes de choisir le mode de vie qui lui convient. L'éducation laïque des enfants, filles comme garçons, très attirée par la philosophie bouddhiste qu'elle décide de mettre en pratique, alors que trop de spécialistes dissertent sur ce qu'ils n'ont jamais vécu eux-mêmes. Alors, Alexandra à l'âge de 43 ans, en 1911, déjà orientaliste estimé, elle part pour l'Asie. On a critiqué parfois son moyen de financement en disant qu'elle tirait, demandait l'argent à son mari, etc., que c'était lui qui payait et qu'elle se promenait. Non, car elle travaillait, elle avait des fonds personnels, elle vendait des articles de journaux et elle obtenait des subventions. Elle est partie pour 2 ans. Elle est restée 14 ans. Eh oui. Ceylan, anglaise, bien sûr. Calcutta, anglaise. Lumbini, lieu, oui, l'origine du Bouddha historique. Bodh Gaya, où le Bouddha historique a reçu l'illumination spirituelle. Et puis elle apprend que le Dalai Lama, le 13e, réside dans l'Himalaya. Alors, de Calcutta, elle monte à Darjeeling par le Toy Train, puis pénètre au Sikkim, où elle obtient le rare privilège d'une entrevue avec le Dalai Lama. Regardez comment elle s'est vêtue et quelle bête elle porte. Elle est la 3e personne en partant de la gauche. Hein, la voilà, Alexandra. À dos de buffle. Après avoir reçu l'enseignement d'un maître spirituel, la voici à Rumtek, le plus grand monastère de l'Himalaya oriental. Et désormais, elle sera secondée par un jeune moine tibétain, Yongden, qu'elle adoptera par la suite. Elle décide alors d'expérimenter la vie en ermite, oui, consacrée à la méditation. Et ici, elle va demeurer dans cet abri pendant 1 an et demi, dans cette grotte aménagée, après avoir stocké les vivres nécessaires pour passer l'hiver à 4000 mètres d'altitude. Et c'est là qu'elle écrit des articles de presse, qu'elle prépare des conférences. Mais expulsée du Sikkim par les autorités anglaises, eh oui, les rivalités, ça recommence, elle doit retourner à Calcutta. Et après un immense circuit par l'Indochine, puis la Chine et le Japon, toujours pour mieux se familiariser avec le bouddhisme sous ses différentes écoles, elle parvient enfin au Tibet, le monastère de Kumbum, près de l'immense lac Kokonor, qui veut dire la mer bleue. C'est là qu'a été fondée la branche des bonnets jaunes, à laquelle appartient le Dalai Lama. Les pères, les religieux Huc et Gabé y étaient passés. Ils avaient séjourné 3 mois en 1845 pour apprendre le tibétain. Alexandra, elle, va y demeurer 2 ans et demi. Voici les moines, bonnets jaunes, du Kumbum. Ensuite, elle se rend à Emeishan, montagne sacrée du bouddhisme, que nous avons grimpée, nous aussi, bien plus tard évidemment, à la boussole, par un sentier non officiel. Bon, ça c'est l'anecdote. Le vrai objectif d'Alexandra, c'était Lhasa, la capitale du bouddhisme. Lhasa qui veut dire le pays des esprits. Alors elle va y parvenir, regardez comment, déguisée en mendiante, après bien des mésaventures. Elle est partie de Chengdu, en Chine, 2000 km de chemin, en charrette, à dos de mule, à pied. Et un jour, elle tombe sur un contrôle. Ah, un contrôle. Alors, elle se tire d'affaire, puisqu'elle est une mendiante. Elle fait les gestes, elle demande la charité, et elle parlait en plus la langue. Elle reçoit une pièce, et que fait-elle pour jouer son rôle jusqu'au bout, pour remercier ? Elle tire la langue. Alors là, elle est reconnue comme une vraie tibétaine. Il est vrai que dans sa jeunesse, elle avait pratiqué les arts de la scène. C'est toujours utile. Enfin, de retour en France, dans sa maison de Digne, elle travaille inlassablement, écrit de nombreux ouvrages, traduits en 13 langues, puis désire renouveler son passeport pour repartir. Mais c'est quelques semaines avant sa mort qu'elle va avoir 101 ans. Inlassablement aidée pendant ces 10 dernières années par sa secrétaire Marie-Madeleine Perronnet, que nous avons rencontré, qui nous a invité à prendre le thé et qui nous a raconté comment elle aussi était allée au Tibet, etc. Alexandra David-Nel, reconnue comme la première grande orientaliste par les Britanniques eux-mêmes. Deuxième, Ella Maillard, grande sportive, elle pratiquait le ski, le nautisme, l'alpinisme, le tennis. Alors, elle est partie avec un ami, Peter Fleming, journaliste au Times. Peter Fleming, c'était le frère de Ian Fleming. Ah, eh oui, James Bond. Alors, on peut penser que l'un a donné quelques idées d'espionnage pour l'autre, pour le cinéaste, vous voyez ? Bon, pour le cinéaste, écrivain. Quoi qu'il en soit, Ella et Peter ont l'expérience, ils ont l'énergie physique et mentale. Et en 1935, voilà la carte, je vous ai montré, voilà la carte le tracé qu'ils ont suivi pour aller de Pékin à Srinagar, 6000 kilomètres. Alors, il y a eu 3 expéditions, mais là, je présente, c'est la rouge, oui, c'est ça. Il a 6000 kilomètres en 7 mois. Ce n'est pas toujours facile, vous voyez. Oui, car 7 mois, c'est rapide, compte tenu des difficultés. Et puis, parfois, il faut traverser des rivières. On rencontre parfois ces beaux animaux qu'on appelle des kiang. Ce sont des émiones sauvages. Et à chaque oasis, bien sûr, on rencontre des gens qui vous offrent le thé et on bavarde, à condition de parler la langue du pays. Parmi ses nombreux ouvrages, Ella Maillart raconte le voyage dans « Oasis interdite », ouvrage dans la bibliographie. Ouvrage qui a été salué et préfacé par un autre grand voyageur du nom de Nicolas Bouvier, qui en tirera d'ailleurs enseignement lui-même, avec de précieuses observations sur les autochtones et sur la faune. Troisième, moins connu, Michel Pécel, qui connaissait bien l'Himalaya, et lui, il a voulu aller voir le petit royaume du Mustang. Alors, voyez en rouge, là, le Mustang, une petite vallée encaissée, et on arrive à un col qui donne sur la Chine. Oui, le Mustang. En 1964, il a été le découvreur de ce royaume et le seul étranger autorisé à y résider. Il a fallu traverser donc tout cela, passer des cols, etc. Mais j'ai peut-être une image... Non, pas, non. Bon, peu importe. Ici, vous avez une image qui montre un autre personnage. Il a obtenu l'aide quand même du Dalai Lama, ou plutôt de son frère, pour pouvoir se rendre au Mustang qui dépendait du royaume du Népal. Bon. Une fois passé les cols et parvenu dans la vallée, si vous vous retournez, vous avez une vue sur le magnifique massif de l'Annapurna, mais côté nord. Souvenez-vous, l'Annapurna, premier 8000, Herzog, Terre, Lachenal. Eh bien, c'est ça, c'est cette montagne. Mais lui, notre Michel Pécel, est passé de l'autre côté, sans monter, bien sûr. Rencontre avec une caravane de yaks. Alors, dans cette vallée du Mustang, petit royaume, le souverain croyait encore que la terre était plate. Vous voyez ? Il croyait. Remarquez qu'actuellement, il y en a encore qui le croient. Qui ne connaît Sylvain Tesson ? Intrépide casse-cou, peut-être, mais infatigable voyageur, qui est un fin observateur et excellent écrivain, plusieurs fois primé, je précise. Il a eu le prix Goncourt de la Nouvelle, le prix Médicis et le prix des Hussards. Membre de la Société des Explorateurs. Alors lui, à bicyclette, à pied, à cheval, à moto, tout est bon. Avant l'invention du GPS ou du téléphone satellitaire, le voici dans la steppe mongole où il fait le point. Oui, là, il bivouaque au pied de l'Himalaya, près de la rivière Tista. Il a parcouru l'immense Asie du nord au sud et je donne le nom de l'ouvrage, La taïga sibérienne, c'est l'ouvrage L'axe du loup, le chemin suivi par les prisonniers russes qui s'échappaient pour essayer de retrouver la liberté vers le sud. Mais aussi de l'est à l'ouest, hein, 5000 km à pied le long de l'Himalaya. Voilà, en mauve, hein, le passage. Eh bien, il est passé en dessous, voyez, de l'itinéraire du Moustang de l'autre. Mais lui, hein, il a longé est-ouest. Alors, ces extraordinaires épopées nous ont incité, Anne et moi-même, à tenter l'aventure. Et tout commença au siècle dernier. Oui, au siècle dernier. Alors, c'est mon chapeau. Madame me l'avait emprunté. Je ne vais pas recommencer le même scénario. Vous connaissez, car l'heure tourne et il faut quand même arriver au bout. Les petits points rouges marquent les lieux où nous sommes allés, tous les points rouges, pas en une année, je vous préviens, en de nombreuses années successives. Mais vous voyez qu'on n'est pas allé au cœur du Tibet, sauf à Lhasa. Hein. Mais quand même, on a un petit peu visité de long en large et en travers. Oui. Il y a deux triangles rouges, les Meishan, la montagne, un peu vers le bas à droite. Oui, la montagne sacrée, je vous l'ai dit, montée à la boussole. Et puis, il y en a un deuxième, je ne sais plus où je l'ai mis, là, il n'est pas peut-être... Ah oui, pardon, oui, le Wangshan, les montagnes jaunes, oui, aussi, au sud de Shanghai. Très beau aussi, très belle promenade. Il faut être un peu en forme, d'accord. En Chine, nous avons visité les rivières du Kuizhou. Vous voyez, c'est magnifique. Nous avons, alors, voici la montée ici à Lemeishan, qui est l'un des cinq sacrés pour les bouddhistes. Alexandra Davidney, il est allé, c'est pour ça que ça nous a donné envie de faire la même chose. Le monastère de Labrang et sa célèbre école de médecine. Mais surtout, où étaient allés Aurel Stein et Von Lecoq, les vertigineuses grottes de Maijishan sur la route de la soie. Alors, vous grimpez là, voyez, il y a des grottes, et quand vous êtes perché là, voilà. Vous avez vraiment le nez sur les sculptures. Mais il ne faut pas avoir le vertige, il faut avoir confiance dans l'architecture des Chinois pour construire les échafaudages. En Mongolie, en 2017, dans la steppe où le cheval est roi, où nous avons assisté aux épreuves équestres du Nai Dam, je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail, mais c'est très intéressant d'étudier cela. Ou alors nous avons escaladé la gigantesque dune du Congorin où était allé Sylvain Tesson. Oui, la dune qui fait 100 km de long et 295 mètres de haut. Le Pila, c'est combien ? Ouais, écoutez, ça fait trois fois le Pila. Allez. Mais bon, il faut grimper. Et pour arriver en haut, quand même, il faut céder un peu, parfois. Et ce n'est pas le Pila, hein. Bon. Au Kyrgyzstan, notre dernier voyage, 2019, la majesté de la montagne Tian Shan, je vous l'ai dit, hein, les montagnes célestes, et la Maya est passée là. C'est pour ça qu'on a voulu y aller. 7400 mètres de haut là-bas, hein. Puis une promenade, enfin, dans un robuste vestige de l'industrie soviétique, sur une piste bien entretenue, vous allez en juger. On a croisé un autre véhicule. À la rencontre de buffles paisibles, si on garde ses distances, la nuit sera bien fraîche, mais on n'entendra pas la télévision des voisins. Ici, c'était Riva, oui, en Ouzbékistan, où l'empereur chinois, le Han, faisait dresser sa yourte là sur la terrasse. Il ne voulait pas dormir dans un bâtiment. Et la yourte, elle était là, en dominant, oui. Samarcande et ses coupoles de briques vernissées, puis au Tibet, devant le monastère de Trundrung des Bonniers Jaunes, où étaient allés les pères Huk et Gabé, où les jeunes Getsul, les novices, ne pratiquent pas toujours la méditation de manière réglementaire. Au Népal, 15 jours avant le terrible séisme d'avril 2015, nous admirions le splendide travail des artistes Niwar, travail du bois, travail de la brique et travail de la pierre. Et au fond, vous avez en or une sculpture religieuse. Au Ladakh, nous sommes allés voir ces stupas dont ces trois couleurs évoquent les bodhisattvas Vajrapuni, c'est le bleu, Avalokiteshvara, c'est le blanc, et Manjushri, c'est le ocre. Aurel Stein en parle. Les villages nichés dans les replis des vallées, où la vie est bien rude. Le Bhoutan, pays du bonheur national brut. Ouais, voyez les sourires. Et le vertigineux monastère, la tanière du tigre, où était allé Alexandra David Neil. Le Sikkim, état indien, où elle emprunta le petit train, le toy train, pour se rendre à Darjeeling. Oui. Et en Inde, enfin, plus précisément à Dharamsala, petite ville nichée à 2000 mètres sur les contreforts de l'Himalaya, c'est l'actuel lieu de résidence du 14e Dalai Lama en exil. Il y donne des conférences en anglais ou en tibétain, et nous l'avons vu un peu de loin quand même. Et le panorama, depuis la ville basse jusqu'à la ville haute, hein, où nous avons passé quelques jours et où nous avons randonné sur les chemins. Petit chemin de promenade, de randonnée, oui, mais enfin, retour, alors, une rencontre très sympathique, échange de petits cadeaux sur ces chemins, et retour par Srinagar, ville multi-ethnique, où se termine aujourd'hui notre voyage. Montaigne avait raison, voyager me semble un exercice profitable, l'âme y trouve continuelle excitation à remarquer les choses inconnues. Voici la liste des musées pour voir des vestiges de tout cela. Et reste, je la donnerai si vous la désirez. Et voici dont les personnes que nous désirons remercier. Voici, c'est terminé pour aujourd'hui. Une bibliographie en deux parties, les ouvrages les plus importants. Alors, vous en avez plusieurs, mais Bouddha et rôdeur sur la route de la soie, voyez, de Peter Hopkirk, très important. Le voyage de Przybylski, voilà. L'Empire des steppes, tous sont intéressants.
Bien. Bon, vous êtes prêts à partir ? Ça y est ? Hein ? Bon, alors, comme le temps passe et que la conférence a été passionnante, vous l'avez d'ailleurs suivie avec beaucoup d'attention, s'il y a une question, si quelqu'un s'est promené dans ces régions et... Ah, c'est déjà bien. Bon, eh bien, je vois que je vais vous laisser avec vos rêves. Et puis, si vous avez besoin de quelques données bibliographiques, il vous les donnera.
Je les laisserai, oui.
Voilà, il va les laisser. Et puis...
Ben, moi, j'aurais posé une question ou deux.
Ah bon, alors, posez
si
une question.
Temps, si vous avez
bon,
une
alors,
minute.
Une ou deux questions, parce qu'il va falloir qu'on libère
d'accord.
Ça. Voilà.
Alors, une question. À main levée.
On vous entend pas.
Quel est le nom plus connu du mont Chomolungma ou Sagarmatha?
L'Everest.
Oui, alors qui a dit Everest? Deuxième question. Attention, Anne, ça va très vite.
Oui.
Quelle était la nationalité de l'archéologue Lecoq ?
Allemand.
Et quel était son principal rival, archéologue français ? Oui, monsieur. Ici devant. Paul Pelliot.
Là. Oui.
La première femme européenne qui atteignit Lhasa.
Alexandra.
Ah, qui a dit Alexandra ? Il y en a plusieurs.
J'ai dit Alexandra, moi.
Madame la présidente.
C'est bon.
Bon, allez, on arrête là, parce que...
Eh bien, voyez, ça prouve que vous avez bien écouté, quand même. Hein. Bon, allez, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que la prochaine conférence...